nous sommes venus pour la transformation. Nous allons suivre à la fois la voix et l'image. J'aimerais qu'on puisse commencer au début. Vous voyez l'image de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, ce n'est pas un esprit. C'est en fait la lumière du soleil qui est décomposée par les gouttelettes d'eau dans l'atmosphère. C'est une image du chrétien. Nous recevons le soleil, la lumière du Christ en nous. Alors la lumière peut produire une créature comme celle-ci, très jolie. Nous voulons voir quel est le portrait du disciple. À quoi ressemble le disciple? Jésus-Christ a comparé également le disciple à une semence qui est plantée. Et ça, c'est la nouvelle naissance. Et une fois plantée, doit continuer à enfoncer ses racines dans la profondeur de la terre, c'est-à-dire dans le roc. Vous voyez l'image d'un arbre gauche qui est déraciné parce qu'il n'a pas pu plonger ses racines dans la profondeur du sol. Mais l'autre arbre est encore debout parce qu'il a plongé ses racines dans la profondeur du sol et même dans le roc. Le système racinaire est très très important pour nourrir la plante d'abord ou l'arbre et pour assurer sa stabilité. La botanique nous apprend qu'il y a la racine principale ou primaire, mais aussi des racines latérales. Et pour le disciple, la racine primaire, c'est de renoncer à soi-même, de porter sa croix, suivre Jésus-Christ. Renoncer à soi-même, dire non à soi-même, dire non à ses désirs, à sa volonté, dire non. Et porter sa croix signifie, vous savez, chez les Romains, quand vous portez votre croix, cela signifie que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Il peut même vous ôter votre vie, conduit d'ailleurs à la mort. Et vous n'avez plus de choix. C'est la même chose quand le disciple renonce à lui-même. Il porte sa croix, cela signifie qu'il se donne lui-même à Jésus-Christ et il ne s'appartient plus à lui-même. Nous devons suivre Jésus-Christ. C'est ça le disciple. Voyez l'image de quelqu'un qui a renoncé à quelque chose, mais descendez pour voir également l'image de quelqu'un qui porte sa croix. Et le troisième, c'est quelqu'un qui est décidé de suivre Jésus-Christ. C'est des images que Jésus-Christ utilise pour nous dire ceci, que le disciple, c'est quelqu'un qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne s'appartient plus à lui-même, mais il appartient à Jésus. Pour que le disciple puisse grandir, être stable, et il doit développer non seulement la racine principale, c'est-à-dire il doit continuer à renoncer. Il doit renoncer chaque jour, à chaque heure, à lui-même, mais aussi obéir à Jésus-Christ dans une soumission totale. Mais il doit également, et ça c'est la racine première latérale, il doit également augmenter sa vision de façon croissante. Vous voyez l'image de trois voitures. Alors, la voiture rouge n'est pas dans le champ de vision du chauffeur de la voiture bleue. Et la voiture rouge, dans l'angle mort, c'est-à-dire dans un domaine qui n'est pas atteint par la vision du chauffeur de la voiture bleue. Il y a beaucoup d'angles morts dans nos vies. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, mais le disciple doit continuer donc à augmenter sa vision. Voyez la deuxième image d'un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont tomber tous dans le trou, non? Nous demandons à Jésus-Christ de nous ouvrir les yeux, lui qui voit bien, qui nous aide à voir clair, à voir le chemin, à voir la vie, à voir tout le domaine de notre existence. Je vais vous demander de passer à la deuxième racine latérale. C'est que le disciple doit s'assurer qu'il continue à être enseigné jusqu'à ce qu'il ressemble au maître. Vous voyez là, un maître qui enseigne un disciple. Nous devons tous nous soumettre à cette discipline. N'acceptez pas n'importe quel maître cependant. Et puis, sachez-le bien, vous suivez votre maître comme il suit le Christ. Nous devons tous ressembler à Jésus-Christ. C'est pourquoi nous sommes des disciples, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui apprennent de Jésus-Christ. Oui, qui apprennent de son caractère, qui apprennent de sa discipline, qui apprennent à être comme lui. Troisième racine latérale, le disciple doit s'occuper de la sanctification personnelle d'abord, au lieu de vous concentrer sur les autres. Vous voyez cet homme, il a une poutre dans son œil, mais il est en train de chercher à ôter un brin de paille ou un grain de sable dans l'œil de l'autre. Souvent, c'est ça qui se passe. Nous sommes tellement concentrés aux défauts, aux faiblesses des autres que nous oublions même les nôtres. Nous oublions même que les nôtres, que nos faiblesses sont même beaucoup plus graves, beaucoup plus grandes que celles des autres. Alors, nous voulons parler des secrets qui permettent aux disciples de continuer dans la sainteté. J'ai comparé cette leçon à un tabouret à trois pieds et le siège sur le fondement. Le fondement de la sainteté du disciple, c'est être baptisé en Jésus-Christ, c'est-à-dire recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça même le fondement de la sainteté. Tout commence par là. Alors, quand vous êtes baptisé en Jésus-Christ, c'est-à-dire quand vous l'avez reçu comme Seigneur et Sauveur, alors, premier secret, le disciple doit continuer de se considérer comme mort au péché et de vivre en union avec Dieu par le Christ Jésus. Si vous ne vous considérez pas comme mort au péché, alors le péché vient, vous allez commettre le mal. Mais quelqu'un qui est mort au péché, quand le péché est là, il dit « je ne peux rien faire parce que je suis mort ». Le mort ne fait rien. Deuxième secret, le disciple s'est donné lui-même à Dieu une seule fois pour toutes et utilise les parties de son corps comme instrument de justice. Offrez les membres, les parties de votre corps comme outil de justice. Oui. Offrez-les pour faire le bien, pour faire ce que Dieu demande. Il s'agit de les offrir. Et je me rappelle, Joseph disait, mais comment puis-je faire un si grand mal aux yeux de Dieu? Et Paul disait, mais comment puis-je donner les membres du Christ à une prostituée? C'est pas possible. Troisième secret, le disciple doit comprendre qu'en s'abandonnant à Dieu, il s'est donné pour être un esclave de Dieu et de l'obéissance à l'enseignement de Dieu. Je suis mort au péché. J'ai donné mes membres à Dieu et je suis devenu la possession, la propriété privée de Dieu. Je suis esclave de Dieu. L'esclave fait ce qu'on lui demande de faire. Nous devons donc nous considérer en tant que tels et continuer dans ces attitudes, dans ces prises de conscience. Mais nous voulons également examiner, et c'est le texte d'Apocalypse, nous voulons examiner les dimensions du disciple. Ah, c'est Jésus-Christ qui veut jeter un regard sur notre Église ce matin. Et pour vous aider, j'ai pensé qu'on pouvait dire ceci. Et c'est le résumé de notre message. Le disciple s'occupe de la santé de son cœur. Il y a nécessité d'intégrer la dimension oubliée dans notre expérience chrétienne. Et cette dimension, c'est la dimension cœur. Nous avons lu le texte d'Apocalypse, nous n'allons plus le relire. Je vais demander à mon ami de descendre et nous voulons voir le destinataire de la lettre. Ouais. Vous descendez toujours, voilà, nous sommes là. Ouais. Cette lettre a été écrite sur l'île de Patmos et c'est Jésus-Christ qui a demandé à son serviteur de l'écrire et vous lisez au verset premier, à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit. L'ange ici, c'est pas un être surnaturel. Non, c'est un homme ordinaire. Oui. Alors, la Bible nous aide à interpréter ces images. L'ange, ce peut être le responsable de l'église. Oui. Mais cette lettre sera lue par le leadership de l'église. Et elle est même destinée à être communiquée aux membres de l'Église et même aux églises voisines. Nous sommes en Asie mineure avec 7 grandes églises. Alors, je vais vous demander de voir la carte, la jolie carte de l'Afrique, pour savoir où nous sommes. Si vous partez du Congo, vous passez par le Soudan, et puis l'Égypte, vous traversez la mer Méditerranée, et hop, vous êtes à Éphèse, dans la Turquie actuelle. Prenez la deuxième carte qui va nous indiquer le lieu où nous sommes. Vous pouvez apercevoir... Non. C'est un peu difficile pour vous, mais Éphèse, c'est au bord de la mer, non loin de Patmos. Ouais. Alors, vous avez là cette église auquel Jésus-Christ a adressé des lettres, et la lettre adressée à Éphèse sera lue même dans toute la région. Nous descendons à l'axiome. Malgré la diversité des circonstances, le besoin du cœur du disciple de la CBK aujourd'hui est le même que celui du disciple d'Éphèse à l'âge apostolique. C'est la raison pour laquelle nous allons étudier cette lettre et la considérer comme notre lettre. Jésus-Christ adresse cette lettre à notre église de la CBK Goma Ouest. Le destinateur du message, c'est bien entendu Jésus-Christ, et se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, la main puissante. Les 7 étoiles, la Bible nous dit au chapitre 1er que ce sont les dirigeants. Oui. Et c'est des étoiles parce qu'ils brillent. Et qui marchent au milieu des 7 chandeliers d'or. Les chandeliers d'or, ce sont les églises. Les chandeliers donnent de la lumière. Les églises doivent briller aussi. Alors, essayez de voir la deuxième, oui, cette image, l'autre, oui. C'est juste pour vous aider à vous représenter le Christ qui marche au milieu des 7 églises, oui. Alors, quand Jésus-Christ s'adresse à l'église d'Éphèse, c'est d'abord pour la louer. Il y a 10 points d'éloge. Éphèse est louée pour ses œuvres, son travail, sa persévérance. Éphèse ne supporte pas les méchants, les menteurs. Éphèse éprouve ceux qui se disent apôtres, là donc le discernement, et les trouve menteurs. Et puis Éphèse a la patience, souffre à cause du nom du Seigneur. Éphèse ne se lasse point. Éphèse est les œuvres des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes enseignaient, pratiquaient l'abandon au mauvais désir, c'est-à-dire... Il disait ceci, au nom de la grâce, je peux commettre un péché et je suis pardonné. Alors, au lieu de la liberté en Christ, ils ont plutôt le libertinage, faire ce qu'on veut et non pas faire ce que Jésus-Christ veut. Ça, c'est les Nicolaïtes. Et je vous assure, aujourd'hui, même s'il n'y a pas de Nicolaïtes aujourd'hui, mais la tendance de l'homme, et même l'homme à l'église, c'est de faire ce qu'il veut, et de ne pas renoncer à lui-même, à ses mauvais désirs. C'est de faire ce qu'il veut et de ne pas obéir à Dieu lui-même. Ça, c'est la tendance. C'est toujours ça, le danger. Le danger nous guette. Alors, Jésus-Christ prend une balance. Qu'est-ce qu'il fait? Les 10 éléments de louange sont contrebalancés avec un blâme. Et nous allons voir le blâme. Éphèse a brillé. Éphèse a beaucoup, beaucoup de louanges, d'éloges sur son actif, mais il y a un blâme. En fait, Éphèse a développé une maladie très grave. Et la Bible nous dit ceci, qu'il s'agit de l'abandon du premier amour. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Ça, c'est une faute trop lourde. Cela signifie qu'Éphèse n'a pas entretenu l'ardeur et la dévotion du début. Oui. L'amour du disciple pour Dieu doit être en effet plus grand que le désir de posséder les biens, que l'amour pour la famille restreinte, hein, que l'amour pour le conjoint. L'amour du disciple pour Dieu doit être plus grand que l'amour pour soi-même. Jésus-Christ réclame l'intensité et la qualité de l'amour. Quand vous abandonnez le premier amour, c'est... peut-être parce que vous êtes attiré par le monde comme des masses, ou bien un désir de facilité, de liberté face aux reproches, aux persécutions, hein, des petits péchés bénins qui ne sont pas trop graves, mais qui commencent à s'infiltrer dans votre vie. Et ainsi, vous savez, ce sont les petits renards, les petits rongeurs, hein, qui mettent le champ de blé en difficulté. La moisson n'est pas là si vous ne piégez pas ces petits rongeurs-là. Ouais. Et c'est la même chose avec la vie chrétienne. Peut-être qu'un esprit religieux vous domine. Vous faites les choses sacrées pour le... comme dans une routine, oui, sans amour du tout. Il y a des divisions et des querelles comme à Corinthe et en Galatie, hein, qui peuvent également diminuer, refroidir l'amour. Et tout ceci ne peut jamais plaire à Christ. En fait, ce qui est arrivé à Éphèse, il faut le comprendre, l'amour est encore là. Mais c'est un amour qui a perdu sa qualité, son intensité, qui a perdu son miel. C'est un amour qui a perdu sa passion, sa chaleur, l'admiration qui le caractérisait, l'excitation, la vie, la joie, la dévotion, la référence. Ouais. L'amour s'est refroidi et le déclin a commencé. La brillance, c'est-à-dire la lumière avec laquelle l'Église brillait, a commencé à diminuer. Il y a eu une apparence d'être une vraie Église. Rappelez-vous, 10 éloges. Mais le Seigneur cherche à restaurer cette Église. Ouais. Et vous savez ce qu'il dit? Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Le souvenir est très, très important dans la vie chrétienne. Et je vais vous inviter également à vous souvenir chacun de ce qu'il était d'abord au commencement. Quand vous avez reçu le Seigneur, est-ce que vous pouvez vous souvenir de ce moment-là? Combien de fois vous priez? Avec quelle ardeur? Avec quelle excitation? Oui. Combien de fois vous lisiez la Bible? Combien de veillées de prières? Est-ce que vous pouvez vous rappeler même la durée de votre prière? Vous ne vouliez pas quitter le Seigneur? Oui, tellement vous étiez attaché à lui. Oui. Et vous étiez très souple avec le témoignage. Vous ne vouliez jamais quitter quelqu'un sans lui laisser un mot de vie. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Essayez de comparer ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu. Est-ce qu'il n'y a pas eu déclin dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas refroidissement? Jésus nous dit, la solution c'est de vous repentir, c'est-à-dire de changer de comportement, c'est-à-dire de reprendre les pratiques, les disciplines, les œuvres que vous aviez auparavant. Sinon, ça c'est la menace, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. En fait, le chrétien qui ne brille plus, c'est comme un chrétien qui n'existe plus. Il a perdu sa raison d'être. Oui. Et une église qui ne brille plus, c'est une église qui s'efface. Parce que nous sommes des étoiles, nous sommes des chandeliers, c'est-à-dire nous devons briller. Est-ce que vous continuez à briller? Jésus-Christ éveille notre conscience. Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Discernement. Celui qui a le Saint-Esprit écoute les choses de l'Esprit et l'Esprit l'aide à les mettre en pratique. Il y a une promesse juteuse pour nous, aux vainqueurs. En fait, dans la vie chrétienne, il y a des vainqueurs aussi. Parce que la vie chrétienne, c'est un combat contre les mauvais désirs, par exemple. Oui. Un combat pour continuer, pour entretenir le feu. Un combat contre le diable, un combat contre l'erreur, oui, le mensonge, oui, c'est un combat. Alors, au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Nous avons cette promesse, oui. Alors, appropriez-vous la promesse, oui. Est-ce que vous pouvez voir le paradis à travers cette image? Oui, c'est joli, oui, vraiment. Mais attention, il y a trois éléments. Nous allons parler de la tête, le cœur et les mains. Pour représenter quoi? Le chrétien, le disciple, doit avoir une saine doctrine. Oui, ça c'est l'affaire de la tête, l'orthodoxie donc. Il faut avoir la vérité, toute la vérité. C'est pourquoi vous devez continuer à apprendre. Mais le chrétien doit avoir également l'orthopraxie, c'est-à-dire un bon comportement, des bonnes œuvres. Le non-conformisme, c'est-à-dire il ne doit pas faire comme tout le monde. Non, non, non. Ouais. Et ce que vous avez fait en tant que Sebeka Goma West, c'est formidable. Vous êtes en train de construire un labyrinthe. Mais je vais vous demander de considérer également votre cœur maintenant. Ouais. C'est la troisième dimension. Et si le cœur est malade, c'est vraiment tout le corps qui est malade. Oui, si le cœur est malade, il faut le soigner. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes devenu l'ami intime? Est-ce que vous êtes dans le cercle intime, étroit avec votre Seigneur? Est-ce que vous sentez de la chaleur spirituelle? Est-ce que vous êtes attaché au Seigneur? Est-ce que vous échangez avec lui des confidences, des secrets? Ou bien il y a des secrets dans votre vie que vous voulez même lui cacher? Est-ce que vous êtes ami de Dieu? Est-ce que votre amour, c'est cet amour qui est plein de miel, d'affection, est-ce que vous êtes dans une communion intense, profonde avec le Seigneur? Ce qui s'est passé avec Éphèse, c'est quoi? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6, que quand l'Église s'est constituée, alors les hommes et les femmes ont reçu le Seigneur, ils étaient installés dans les lieux célestes. La vie chrétienne, c'est une vie mystique en Christ. Mais maintenant, ils ont commencé à tomber. Ouais. Et ils ne vivent plus le ciel, mais ils commencent à traîner leur ventre sur le ras du sol, dans la boue. Alors, le discipulat concerne toutes les dimensions, nous voulons dire, toutes les dimensions de l'homme. Dieu veut, nous veut dans le cercle intime. Oui. Nous avons besoin de diagnostics permanents pour voir si le Christ occupe encore la première place dans nos vies. Nous devons nous rappeler, nous repentir, retourner aux disciplines spirituelles pour développer le premier amour. Engagez-vous à faire chaque chose, tout ce que vous faites dans votre vie, mais le faire par amour pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Je vous demande de voir un peu comment l'église d'Éphèse a évolué. Oui. C'était en 52 que l'église a été plantée. Alors, la semence a germé. Puis en 54, 56, c'est le sarclage. Et après, c'était l'entretien. Vraiment, les plantes, les jeunes plants étaient bien entretenus. Puis c'était l'arrosage avec Timothée, Apollos, Priscille, Aquila et d'autres serviteurs comme Paul. Et alors, nous sommes au sommet, l'église a produit, c'était en 66, beaucoup de fruits, beaucoup vraiment. Mais par après, il n'y a plus assez d'entretien. Alors c'était la sécheresse, avec la deuxième génération de cette église. Nous devons donc voir aussi, nous sommes des jeunes, nous devons voir aussi comment nous allons transmettre notre foi à la génération montante. Sinon l'église ne va pas continuer à briller. Et enfin, avec Éphèse, en 200, c'était la mort. Aujourd'hui, si vous allez à Éphèse, l'église n'est plus là. Il y a plutôt des mosquées dans la Turquie, vous le savez. Ouais. Alors, essayez de prendre pour la dernière fois une photo avec ces images. Ouais. Moi, je me dis, mais est-ce que vous pouvez placer votre photo là-bas? Oui. Et votre famille, oui. Je vous demande de reconsidérer votre vie. Essayez de comparer ce que vous êtes devenu à ce que vous étiez auparavant. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous gardez juste l'apparence, mais au fond, vous avez décliné? Est-ce que vous n'avez pas l'impression que votre amour pour le Seigneur s'est refroidi? Le Seigneur nous demande à la repentance. Oui, la repentance. La repentance. C'est ça la transformation. Peut-être que vous n'êtes pas tout le temps avec le Seigneur dans sa présence. C'est un problème, ça. C'est un problème. Le Seigneur doit devenir votre chéri numéro un. Oui. Si vous aimez les nouveaux vêtements, le véhicule, la maison en matériaux, Si vous aimez la viande plus que le Seigneur, alors vous êtes comparable à cette église. Oui. Notre amour pour le Seigneur doit être comme Jésus-Christ lui-même l'a dit et comme Dieu l'a dit, nous sommes dans Deutéronome chapitre 6, verset 5. Ça doit être un amour total. Dieu nous demande de l'aimer de toute notre intelligence, tout notre cœur, toute notre force, toute notre pensée, tout notre esprit, toute notre famille, tout ce que vous faites. Il y en a qui prennent mal des décisions. Quand le Seigneur lui demande de faire quelque chose, il recule. Moi, je vous dis que le Seigneur est très exigeant. Oui. Le Seigneur est très exigeant. Seuls ses esclaves peuvent accepter ses exigences. Oui. Voyez comment il dit à Isaac, non, à Abraham pour Isaac, il dit, mais c'est ton fils unique. Mais je vais le manger, tu l'amènes. Hein? Oui. Et tu restes sans rien. C'est ça le Seigneur. Oui. C'est ça le Seigneur. Aujourd'hui, l'évangile ne marche pas parce que les chrétiens veulent être riches. Ils veulent même être plus riches que le Seigneur. Je vais attirer votre attention sur ce fait. Vous voulez conserver votre honneur parce que vous avez honte de témoigner de Christ. Oui, vous avez peur d'être taxé d'un secteur peut-être. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que vous donnez beaucoup au Seigneur, vraiment? Est-ce que vous pouvez payer le sacrifice auquel il a consenti pour vous-même? Est-ce que vous pouvez payer ça? Le Seigneur nous demande ces derniers temps, parce que le travail est encore là, le Seigneur nous demande beaucoup de sacrifices. Et je vous assure, si notre amour se refroidit, nous n'allons pas obéir, nous soumettre à ses exigences. Et nous n'allons pas prier. L'Église n'avance pas parce que les chrétiens ne s'engagent toujours pas et ne veulent pas se repentir. Combien vous donnez pour l'Évangile? L'Évangile ne peut pas avancer sans argent. Et ce n'est pas l'argent que Dieu demande, c'est vous-même. Oui. Si vous ne vous donnez pas au Seigneur, vous n'allez pas non plus donner l'argent. Le Seigneur nous demande beaucoup d'argent ces derniers temps parce que le travail, non, la moisson est très grande. Et surtout au Congo, il y a beaucoup, beaucoup de besoins dans ce pays. Beaucoup de besoins. Oui. Essayez de passer du temps avec le Seigneur et de discuter des questions comme ça avec lui. Vous allez constater que le Seigneur va mettre sur votre cœur beaucoup de fardeaux. Oui. Au point même que vous allez vendre tout ce que vous possédez pour le donner, pour donner le résultat aux pauvres. Et puis, ce sera là, aimer le Seigneur de tout votre cœur. Je vais vous demander donc de commencer aujourd'hui une expérience nouvelle avec le Seigneur. Prenez du temps avec le Seigneur, écoutez-le et voyez ce qu'il va vous dire. N'ayez pas peur du Seigneur, c'est votre vie. Amen.
Son nom parmi les sang dans